Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de 90 minutes info de la semaine. Le débat, les thèmes dont nous allons parler aussi avec nos invités, tout cela après la minute info, elle est signée Somaïa Labidi. Bonjour Somaïa.
C'est à l'Elysée entre Emmanuel Macron et le prince héritier saoudien. Le chef de l'État a accueilli Mohamed Ben Salman pour un déjeuner de travail et au menu, la guerre en Ukraine, l'Iran, la crise libanaise ou encore la Syrie. C'est la deuxième visite du prince après celle en juillet 2022 qui avait suscité l'indignation des défenseurs des droits humains ainsi que de la gauche française. 12 ans de réclusion requis contre Christian Gansarski. Pour rappel, le 11 janvier 2018, le djihadiste allemand de 56 ans avait agressé 4 surveillants avec un couteau et une paire de ciseaux. Le parquet national antiterroriste estime que le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute. La défense doit plaider dans l'après-midi et le verdict est attendu dans le courant de la soirée. Et puis ces chiffres publiés par Frontex pour terminer, le nombre de migrants traversant le centre de la Méditerranée vers l'Union européenne a plus que doublé en 2023. Au cours des 5 premiers mois de l'année, les pays de l'UE ont recensé plus de 50 300 entrées irrégulières par cette voie. C'est le nombre le plus élevé enregistré depuis 2017, précise l'agence dans un communiqué.
Tristesse en Vendée après le passage aux aveux du mari de Karine Esquivillon. Le corps de cette mère de famille a donc été retrouvé dans un bois. Michel Pial, lui, est en attente de sa mise en examen.
Pas surpris, oui, parce qu'on sait très bien qu'il n'est quand même pas très normal de voir, de ne pas avoir de nouvelles de quelqu'un au bout de 2 mois et demi. Et puis, très honnêtement, enfin, vous avez vu les interviews qui ont été diffusées ces derniers temps. Moi, j'ai rien trouvé de rassurant dans les propos de M. Pial qui se contredisait régulièrement. Donc oui, on avait quand même de gros doutes sur cette possible issue.
Soulèvement de la Terre mettra bien en œuvre sa mobilisation en vallée de Maurienne contre le projet de tunnel Lyon-Turin, malgré l'interdiction de manifester. Alors combien répondront réellement à cet appel et avec quel risque de débordement ?
J'ai été amené à l'appui, finalement, quelque part, de l'interdiction de manifester, à prendre une dizaine d'arrêtés interdisant un certain nombre de choses, comme le transport, le port de mortiers d'artifice, de produits inflammables, explosifs. Nous avons 2000 gendarmes et policiers engagés pour le week-end.
Dans le débat ambiant sur la légalisation du cannabis, une initiative à Bègles, en Gironde, son maire souhaite que la ville devienne une commune test pour encadrer sa consommation.
Légalisation encadrée, ça ne veut pas dire open bar. On ne pourra pas acheter à tous les coins de rue, on ne pourra pas consommer dans l'espace public, les mineurs ne pourront pas consommer évidemment. L'idée c'est réduire les trafics, réduire la consommation des mineurs, encadrer la consommation des majeurs, les accompagner. Voilà, parce que c'est une drogue, hein, donc je ne fais pas l'apologie du cannabis, absolument pas.
Et pour m'accompagner cet après-midi pour commenter tous ces thèmes d'actualité, j'accueille Sabrina Medjugorje. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, Sabrina. Je rappelle que vous êtes essayiste. À vos côtés, le député Renaissance de l'Essonne, Alexis Izard. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Noémie Schultz pour le service police-justice. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Je rappelle que vous êtes ancien patron du RAID. Et à vos côtés, notre ami Jonathan Sixou.
Bonjour Nelly.
Le dernier numéro, Touchot, de Causeur. Exactement. Et là, entre mes mains, voilà, je vous invite à le consulter. C'est donc le triste dénouement auquel on s'attendait de plus en plus ces dernières heures. L'espoir était maigre, en effet, de revoir Karine Esquivillon vivante. Son mari est donc passé aux aveux en garde à vue la nuit dernière, indiquant aux enquêteurs la localisation du corps de son épouse qui a été retrouvée peu après. Cette garde à vue, elle a pris fin en début de matinée. Il a été transféré entre-temps au palais de justice de La Roche-sur-Yon où il devrait être mis en examen dans la journée. Et nous y serons dans un instant, mais tout d'abord, revenons sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Regardez.
C'est ici, dans ce bois, à quelques kilomètres du domicile du couple, que le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé par la gendarmerie vers 4h du matin. Pendant les 2 mois de recherche, son mari a toujours affirmé qu'elle était partie volontairement, y compris devant nos caméras le 22 mai dernier.
Elle a pris des affaires.
Elle a préparé des affaires, puisque les affaires étaient préparées d'avance, puisqu'elle est partie avec un certain nombre d'éléments, dont certains dont je ne peux pas parler. Quelqu'un est venu la chercher. Vous avez vu, là, on habite dans un lieu dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, sa brosse à dents, enfin tout son nécessaire, quoi.
La mère de famille de 54 ans avait disparu le 27 mars dernier. Christophe Cadzior, premier mari de la victime, s'était depuis plusieurs semaines préparé au pire.
Ah ouais, depuis pratiquement le début. Depuis toutes ces incohérences, en fait, on y pensait fortement. Après, bon, on gardait un petit peu d'espoir, mais tout en sachant au fond de nous-mêmes que la finalité, on connaissait la finalité, on s'en doutait, en fait.
Michel Pial a été transféré vers 8h30 au palais de justice de La Roche-sur-Yon, où il devrait être mis en examen dans la journée.
Ce même palais de justice où on vous retrouve, Mickaël Chailloux, bonjour. Ce qu'on comprend en ces dernières minutes, c'est que les choses pourraient s'accélérer.
Oui, ce que l'on sait à l'heure où l'on se parle, c'est que Michel Pial est sorti il y a quelques minutes du bureau du juge d'instruction qui lui a vraisemblablement signifié sa mise en examen. Il est en ce moment même auprès du juge des libertés et de la détention pour décider en fait de son sort dès ce soir, à savoir s'il sera placé en détention provisoire. Vous l'avez compris, le moment clé, c'était la nuit dernière, aux alentours d'une heure du matin, quand Michel Pial, sous la pression des enquêteurs, est passé aux aveux. Il a indiqué qu'il avait bien tué Karine, mais que c'était un accident alors qu'il était en train de nettoyer une de ses armes. Vous le savez, Michel Pial pratique le tir sportif et il possède donc légalement des armes à la maison. Une version, bien sûr, qu'il sera vérifiée et croisée par les enquêteurs. Et puis, deuxième élément, il a indiqué au cours de la nuit, donc quelques heures avant la fin de cette garde à vue, où il avait dissimulé le corps de Karine. Et c'est là que les gendarmes se sont rendus sur les indications de Michel Pial et ont retrouvé le corps de son épouse. Je vous rappelle juste quand même que cette femme est disparue, était portée disparue après déclaration de son mari de Michel Pial depuis 2 mois et demi. Et pendant ce laps de temps, Michel Pial, avec beaucoup d'aplomb, je l'ai moi-même rencontré, a dit et répété à plusieurs reprises sa vérité sur la disparition de sa femme. Il a parlé d'une disparition volontaire qu'elle avait organisée elle-même, 2 mois et demi de mensonges, mais avec beaucoup d'incohérences qui ont abouti, débouché sur cette garde à vue et sur ce soir, cette mise en examen de Michel Pial.
Merci beaucoup et on compte sur vous, bien sûr, pour nous faire signe dès que les choses bougent de votre côté. Noémie, c'est vrai que c'est un homme qui a été très prolixe ces dernières semaines. On va peut-être revenir aussi dans le détail avec vous à cette nuit d'aveu, ce moment de bascule et l'explication donc qu'abordait à l'instant d'ailleurs Mickaël, qu'il a fourni aux enquêteurs.
Oui, alors on ne sait pas. Vous savez que ce qui s'est dit en garde à vue est secret. On a la procureure de la République de La Roche-sur-Yon a laconiquement répondu à nos demandes en disant que le mari avait reconnu les faits, était passé aux aveux et qu'il avait indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. C'est tout ce qu'elle a bien voulu nous communiquer. Donc c'est vrai que la question maintenant, c'est de savoir s'il va y avoir une conférence de presse ou au moins un communiqué pour avoir des précisions. Mais effectivement, ce qu'on sait, c'est que cette garde à vue, elle a duré 48 heures et que c'est quasiment à la fin que cet homme a craqué, puisque hier matin, l'avocat de Michel Pial continuait à dire « Mon client se défend, il dit ce qu'il dit déjà depuis le début, à savoir qu'il n'est pour rien dans la disparition de sa femme ». Et puis, les heures avançant, sans doute la fatigue, mais aussi la pression des enquêteurs avec des éléments, des preuves, des éléments très tangibles qui devaient être de plus en plus difficiles de contester, eh bien, cet homme a fini par craquer. Alors, il parle d'un accident. Là, il faut être assez prudent, hein. C'est une défense assez classique, peut-être le cas, mais si c'est un accident, on peut s'étonner du fait qu'il n'a pas appelé les secours et qu'il a caché le corps et puis qu'il a menti à son entourage pendant 2 mois et demi, parce que c'est un accident en nettoyant son arme, ça peut arriver. Mais effectivement, à ce moment-là, on prévient, on appelle les secours. Et puis, même s'il reste sur cette version-là des faits, vous allez avoir une autopsie, un médecin légiste qui va regarder de combien de balles elle a été tuée, est-ce que c'était à bout portant, voire à bout touchant, est-ce que il y aura des expertises en balistique aussi pour savoir quel a été l'angle de tir. Bon, donc cette version-là, si c'est la bonne, on le saura, et si c'est pas la bonne, on le saura également. C'est en tout cas la version qu'il donne pour le moment. Là aussi, c'est assez classique. Le fait de passer aux aveux est souvent assez compliqué. Donc le fait de présenter ça comme un accident peut être un moyen de, en tout cas, de chercher à diminuer sa responsabilité.
Oui, mais justement, ces mensonges répétés sur la durée, comme vous le soulignez, peut-être que ce sera retenu contre lui. Quelle pourrait être la qualification possible de la mise en examen?
Le fait de mentir, oui, ne fait pas qu'il encourt une peine plus sévère. C'est-à-dire que vous savez.
Mais sur la qualification de la mise en examen, est-ce que ça peut passer de meurtre à assassinat?
Alors ça c'est autre chose, parce que c'est ce qui s'est passé avant la mort. La question, c'est est-ce qu'il avait prémédité son acte? Est-ce qu'il a tendu un piège à sa femme? Est-ce qu'il lui a donné rendez-vous à un endroit? Ou est-ce qu'effectivement, il va apparaître qu'il y a eu une dispute et que dans le cadre de cette dispute, il y a eu un coup qui est parti et que ce n'était pas forcément préparé? Là, c'est vrai que l'information judiciaire qui avait d'abord été ouverte pour enlèvement et séquestration a été élargie au fait de meurtre. On va voir si la mise en examen reste pour meurtre, ou si éventuellement le juge d'instruction a déjà fait évoluer et qu'on parle d'assassinat. En tout état de cause, c'est quelque chose qui pourra aussi évoluer dans le temps. Mais les mensonges, c'est autre chose, parce qu'encore une fois, les mensonges, c'est postérieur à la mort de Karine Esquivillon.
Jean-Michel Fauvergue, on craque donc parfois à la fin des gardes à vue. C'est un scénario assez classique. On l'a vu dans plusieurs affaires retentissantes. Ça donne peut-être aussi l'occasion de parler de la garde à vue, du processus lui-même que vous avez, que vous connaissez bien. Vous avez été ancien flic.
Oui, bien sûr. Donc la garde à vue dans ce cas très précis.
Alors, on revient dans un instant. Je m'excuse de vous couper, mais l'avocat est en train de s'exprimer. L'avocat Michel
Vial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Il a décidé de s'expliquer. Il a effectivement donné sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience. Je vous remercie.
Il est placé en détention.
Très courte intervention de cet avocat. On en dit un mot. Bon, c'est assez conforme à ce qu'on avait vu jusqu'à présent.
Ce qu'on apprend, c'est qu'il est donc effectivement mis en examen pour meurtre sur conjoint. Vous savez que c'est une circonstance aggravante. Donc, c'est la peine encourue pour meurtre sur conjoint, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Son avocat confirme qu'il a décidé de s'expliquer. Nous dit qu'il est très, très fatigué maintenant, mais soulagé d'avoir parlé. Il n'a donné aucun détail, effectivement, sur les circonstances, mais on a une indication sur la mise en examen.
Alors je vous pose ma question, du coup Jean-Michel Fauvergue, sur la manière dont se déroule une garde à vue et sur finalement cette pression psychologique aussi sur le suspect, toutes ces heures passées à entendre les mêmes questions sans doute en boucle. C'est un scénario assez classique somme toute là?
C'est un scénario qu'on retrouve souvent, oui. La garde à vue en ce domaine-là est de 48 heures, c'est-à-dire 24 heures prolongées d'une fois. Dans d'autres domaines, comme la lutte contre la criminalité organisée ou les stupes ou les terrorismes, elle est beaucoup plus longue que ça. Elle peut aller jusqu'à 4 jours. Mais là, deux fois 24 heures prolongées. En fait, en réalité, comment se déroule la garde à vue? Au départ, d'abord, il y a toute une série d'avis à faire. L'avis de mise en garde à vue, l'avis à l'avocat, l'avis à la famille, etc. Il y a c'est assez lourd d'ailleurs, toute une série d'avis à faire dans ce domaine-là. Et puis assez rapidement, on rentre dans le vif du sujet en prenant une première audition sur la grande identité de l'individu. Et puis après, en général, on le laisse au repos et on reprend une audition sur ce qu'on appelle un PV. Alors dans le jargon policier et gendarmesque, un PV de chic, c'est-à-dire que il va d'abord nier tous les faits, et donc ça c'est acté. Et souvent, c'est acté en contradiction avec des éléments qu'ont les enquêteurs d'une manière générale. Et après, petit à petit, il est mis en face des éléments que les enquêteurs ont. Et c'est ce qui a été très bien fait là. Et le temps aidant et la pression aidant. À un certain moment, les gardés à vue craquent et on peut obtenir des aveux de ce type-là. C'est une pression psychologique, mais les aveux ne valent rien s'ils ne sont pas corroborés. Et là, les aveux sont corroborés par le fait qu'il donne l'endroit où il a mis le corps et il donne l'endroit où il a jeté le fusil aussi. Donc les aveux sont corroborés. Malheureusement, à partir de maintenant, je dis malheureusement à dessein,
comme il est mis en examen, les auditions vont échapper aux gendarmes. Les auditions ne sont possibles que par le juge d'instruction. C'est un peu dommage parce que je pense que là, il était sous pression. Et cette histoire de cette nouvelle stratégie en déclarant que c'est un accident, c'est peut-être le cas, enfin on ne sait pas, là, l'enquête nous le dira, mais là il va avoir le temps de récupérer et d'y penser. Quoi.
C'est-à-dire que le fait de changer d'interlocuteur, ça peut asseoir son propos et il va reprendre de l'aplomb.
Vous savez, dans le bureau du juge d'instruction, qui sont des enquêteurs redoutables, souvent, mais il y a aussi le greffier, il y a l'avocat, l'avocat travaille au fond du sujet, ce qui n'était pas le cas en garde à vue. En garde à vue, l'avocat n'a pas à intervenir sur le fond du sujet. Le dossier est connu de l'avocat et donc les choses s'organisent différemment.
Même si là, l'objectif, c'était quand même de retrouver Karine Esquivillon. Et donc, l'objectif de cette garde à vue, c'était vraiment ses aveux.
Et c'est allé très vite.
De retrouver le corps. Mais c'est vrai, quelque chose qui est important à dire, c'est que les aveux ne sont pas une preuve suffisante en soi. On a vu des gens avouer et au final, on a fini par découvrir qu'ils n'étaient pour rien, mais que sous la pression, sous la fatigue, sous le stress, ils avaient pu avouer des choses qu'ils n'avaient pas faites. Et inversement, même sans aveu, on aurait pu. Alors là, ce qui aurait été compliqué, c'est qu'on n'aurait pas retrouvé le corps. Mais on aurait très bien pu imaginer, et c'est le cas dans l'affaire Jubilard, que même sans aveu, vous avez un suspect qui est mis en examen et qui est incarcéré. Donc là, effectivement, comme il a reconnu. On a vu aussi des histoires où la personne avoue et puis se rétracte. Souvenez-vous de Jonathan Daval. D'abord, il ment pendant des mois. En garde à vue, il nie. Il finit par reconnaître à la cinquième audition en garde à vue. Et puis, plusieurs mois plus tard, un beau jour, dans le bureau du juge d'instruction, il dit « Mais en fait, c'est pas moi, c'est mon beau-frère. » Et il revient sur ses propos.
Alexis Izard, que vous inspire cette histoire? On sait que dans l'immense majorité de ce genre de disparition, le suspect ou le meurtrier est à retrouver quand même dans l'entourage direct de la victime, et c'est bien souvent le conjoint. Hein. Malheureusement, ça ne fait que confirmer cette triste statistique.
Bien sûr, mais moi, ce que ça m'inspire simplement, c'est de l'émotion et une pensée pour la famille. Après, de ce que je vois, c'est que les enquêteurs ont très bien fait leur travail. J'attends maintenant que la justice le fasse très bien, et je sais qu'elle le fera. Mmh.
Réaction peut-être. C'est le 200e. On est à plus de 200 féminicides déjà cette année. Ça ne fait que confirmer cette série mortifère. Hein. Et malgré toutes les mesures qui sont prises, malgré les grenelles des violences faites aux femmes, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour les mettre en sécurité lorsqu'il y a quelque chose de dysfonctionnel aussi au sein du couple. On ne connaît pas bien l'interaction qu'il y avait dans ce couple, mais ça ressortira forcément au cours de l'enquête.
Vous avez raison, Nelly. On finira bien sûr par savoir comment ce drame est arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? On va en apprendre davantage dans les semaines à venir sur la personnalité et de l'assassin et de sa victime. Effectivement, c'est un peu, ce n'est pas périlleux, mais c'est délicat comme explication et j'essaie de pouvoir l'apporter quand vous m'en donnez l'occasion. Vous parlez du terme de féminicide. Je veux par là dire que il me semble que quand on voit un homme, un mari, tuer son épouse, je suis convaincu que dans la quasi-totalité des cas, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle est tuée, mais parce que c'est sa conjointe. Et il y a des rapports terribles entre conjoints. Et c'est évidemment un homme plus fort qu'une femme physiquement qui vient, malheureusement, dans certains cas, à la tuer. Mais c'est une notion que j'aimerais arriver à défendre de façon intelligible. J'entends par là que c'est vraiment des couples où il y a des problèmes, où seule la violence peut, selon eux, l'un des membres, résoudre quelque chose. C'est évidemment pas ça que je défends, vous imaginez bien, quelle que soit la violence. Mais c'est cette notion de féminicide. Dans ce cas-là, je vois quoi? Je vois un homme qui a assassiné sa femme. On verra ce que nous dit l'enquête, on verra ce que nous dit le procès, mais ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle a été tuée.
Alors,
c'est une notion délicate, j'en conviens, qui ne justifie rien.
Vous concevrez que...
Non, je tiens à être précis.
Oui, que tout le monde ne partage pas forcément votre point de vue. On va poser la question à un psychologue qui est avec nous et qui a dû vous entendre sur le plateau. Jean Dorido, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur cette question? Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas du tout, Jean Dorido?
Enfin, je crois que c'est important. Je crois Camus qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Là, c'est une épouse qui a été tuée manifestement par son conjoint, qui est malgré tout présumé innocent toujours pour le moment. Donc oui, il s'agit bien d'un féminicide, et vous l'avez rappelé à juste titre, c'est une triste et longue liste, effectivement. Et oui, c'est un fait, il y a des hommes qui tuent leurs épouses, leurs conjointes.
Jean-Doré, de rester avec nous parce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels j'aimerais vous interroger dans un instant. Mais puisqu'on est sur cette notion de féminicide, de condition de femmes, j'aimerais aussi avoir recueillir la réaction et de Noémie et de Sabrina Majoba.
De ce cas-là, parce qu'on ne sait pas encore précisément le contexte. Mais je crois que la notion de féminicide, il y a l'idée effectivement que c'est un homme qui tue sa femme. Et souvent, c'est dans un contexte de femme qui voulait quitter son mari et donc l'homme qui ne veut pas laisser partir son épouse. C'est
quand un contexte même la d'émancipation.
D'émancipation, d'opposition face au mari qui considère que la femme n'a pas à faire ce qu'elle fait, n'a pas à lui résister, n'a pas. Et c'est en ça que c'est un féminicide. Alors là, dans cette affaire-là, attendons peut-être de voir effectivement si on découvre que Karine Esquivillon avait annoncé qu'elle voulait quitter le domicile conjugal.
Sabrina Medjibor, on ne vous a pas encore entendu, oui. Mais bien sûr, je ne vous ai pas oublié. Soit vous répondez à Jonathan Sixou, soit peut-être vous élargissez le débat, je ne sais pas, sur les féminicides.
Je vais apporter une grille de lecture anthropologique sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est démonstratif de la réalité clinique de la violence faites aux femmes dans ce pays avec un taux d'homicidité qui augmente d'année en année. Mais ce qu'on observe en réalité à travers tous les reportages que nous voyons depuis 3 jours, c'est à la fois une forme de déshumanisation absolument dramatique de la femme avec laquelle il partage sa vie, qu'il ne considère plus comme étant du coup réellement un être humain, mais comme un objet dont il faudrait se débarrasser au moment où il a choisi. Donc ça, c'est la première des choses, vraiment la désaffiliation de son rôle de parent et la désincarnation qu'il incarne vis-à-vis de sa femme. Première des choses. Deuxième chose, ce qui est assez frappant, et je pense que le psychologue sera d'accord avec moi, c'est la façon qu'il a de rationaliser sa folie. C'est-à-dire qu'il a méthodiquement organisé tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Il a menti éhontément devant les caméras dont les journalistes se sont saisis.
À ses enfants.
Absolument, aussi. Et à ses enfants, qu'il a du coup certainement manipulé, ce qui revient à ce que vous disiez préalablement, Nelly, sur l'omerta qui règne au sein de la cellule familiale dans laquelle se propage toute forme de violence. Et du coup, là où on en arrive, et c'est là où c'est d'autant plus dramatique, c'est qu'il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'il a mené méthodiquement, organisé méthodiquement ce qui s'est passé, et en définitive, il se prostre en tant que victime. C'est là où je trouve, en tant qu'anthropologue, il y a une inversion des valeurs qui est assez dramatique.
Jean Dorido, sans aller trop vite non plus, parce que vous n'avez pas effectivement la main sur cette enquête, vous ne connaissez pas le dossier par cœur, que vous inspire ce personnage, cette personnalité quand même qu'on observe depuis maintenant plus de 2 mois, qui s'épanche dans les médias, qui est revenu sur ses théories, qui a beaucoup d'aplomb dans sa manière d'être. Est-ce qu'il y a déjà, de votre point de vue, un profil psychologique à dresser de l'homme ?
Oui, de toute façon, on a des théories implicites de la personnalité, ça a été démontré par de nombreux psychologues, donc de toute façon, c'est plus fort que soi. Chacun d'entre nous, on dresse des portraits comme ça, et c'est un fait que manifestement, Monsieur Pial est un affabulateur. C'est quelque chose qui a été rapporté dans la presse. Il a passé manifestement toute sa vie à mentir. Il a été confondu plusieurs fois pour escroquerie. Donc c'est un monsieur qui a le mensonge facile. Et on vient de le voir effectivement ces derniers mois avec ses nombreuses interventions dans les médias. C'est vrai. Votre journaliste l'a rappelé, ça rappelle évidemment l'affaire Jonathan Daval, ça peut même rappeler d'une certaine façon l'affaire Jean-Claude Roman, ce monsieur qui a menti toute sa vie à tout son entourage, qui a fait croire qu'il était médecin à l'OMS et puis qui a fini là pour le coup par trucider toute sa famille, son épouse, ses enfants, ses parents, ses beaux-parents. Oui, c'est une personnalité. De toute façon, quelqu'un qui passe à l'acte criminel et l'acte criminel, je dirais, le plus haut en termes d'anthropologie précisément, en termes d'interdit, quelqu'un qui finit par tuer quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est une psychologie particulière, même si ce sont des personnes qui ont tout leur discernement. Ça, il va être expertisé, il est plus que probable qu'il soit reconnu comme tout à fait en pleine possession de son discernement. Il y a une dimension, malgré tout, je dirais, de folie au sens commun du terme, qui continue, bien sûr, de fasciner, si j'ose dire, les psychologues et tous les chercheurs en criminologie.
Merci beaucoup Jean Dorido, merci à vous également Jean-Michel Fauvergue. On vous revoit ce soir sur l'antenne. À quelle heure on va prendre le rendez-vous ? 22h. Merci encore pour votre contribution. Dans un instant, nous parlerons du SNU dont la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, a dévoilé les contours aujourd'hui. Je vous ferai réagir bien sûr Alexis Isard, à tout à l'heure.
Retour dans 90 minutes info et avant de reprendre le débat, place au JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Michel Pial, mis en examen pour meurtre sur conjoint, annonce de son avocat qui vient de s'exprimer devant la presse la nuit dernière. Michel Pial a avoué lors de sa garde à vue le meurtre de son épouse Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars dernier. Le corps de la mère de famille de 54 ans a été ensuite retrouvé dans un bois en Vendée. On écoute, on retrouve tout de suite Jean-Michel, Mickaël Chaillou, pardon, en direct depuis La Roche-sur-Yon.
Oui, devant le palais de justice de La Roche-sur-Yon, où Michel Pial vient d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a quitté les lieux il y a quelques minutes. C'est la fin de 2 mois et demi de mensonges pour Michel Pial, qui, pendant ces 2 mois et demi, a répété, qui voulait l'entendre, j'ai envie de dire, sa vérité sur la disparition de son épouse. Il disait que sa femme avait organisé elle-même cette disparition volontaire avec moult détails qu'il a livrés aux uns et aux autres. Mais cette version n'a pas tenu face aux éléments recueillis par les enquêteurs qui ont réussi à faire avouer Michel Pial. C'était la nuit dernière où il a indiqué avoir tué son épouse avec une arme à feu, mais il dit que c'est accidentel, le coup est parti tout seul. Je rappelle que Michel Pial est amateur de tir et qu'il possède lui-même légalement des armes à la maison. Et puis il a, deuxième révélation, indiqué le lieu où il avait déposé le corps de son épouse à 10 km du domicile, dans un bois sur la commune de Challans. L'avocat de Michel Pial, qui l'a évidemment accompagné tout au long de cette garde à vue et puis devant le juge d'instruction ici, est sorti il y a quelques minutes du palais de justice. Je vous propose de l'écouter.
Je serai très rapide parce que vous l'imaginez bien, la nuit a été longue, donc je ne prendrai pas de questions. Monsieur Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Il a décidé de s'expliquer. Il a effectivement donné sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience. Je vous remercie.
Alors l'instruction continue bien évidemment, il y a plein d'éléments à vérifier, notamment la thèse que Michel Pial a livrée aux enquêteurs pendant cette garde à vue, à savoir qu'il s'agit d'un accident, le coup est parti tout seul. Ce soir, il est reparti dans une voiture de gendarmerie pour être incarcéré.
Mickaël Chaillou depuis le palais de justice de La Roche-sur-Yon. Les images sont signées Jean-Michel Decazes pour CNews. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a reçu Mohamed Ben Salman cet après-midi à l'Elysée, un tête-à-tête avec le prince héritier d'Arabie Saoudite qui n'a pas fait l'unanimité. Plusieurs ONG ont condamné cette rencontre. Amnesty International a demandé notamment au président français d'intervenir pour exiger de l'Arabie Saoudite qu'elle suspende l'exécution de sept jeunes hommes condamnés pour des faits commis alors qu'ils étaient mineurs. Emmanuel Macron qui, plus tôt dans la journée, a dévoilé une série de mesures pour permettre le développement d'un avion zéro émission, un avion du futur. Le chef de l'État était en visite chez Safran, Seine-et-Marne, une entreprise française spécialisée dans la fabrication de moteurs pour l'industrie aéronautique et spatiale. Il a notamment annoncé que l'État allait mettre 300 millions d'euros par an pour aider la filière. On l'écoute.
Les trois batailles, c'est réindustrialiser et continuer. C'est réussir la bataille du climat et tenir nos objectifs de neutralité carbone 2050 et de moins 55% des émissions en 2030. Et puis, c'est celle de la souveraineté. Alors, pour ce faire, on doit avoir un objectif simple. C'est que nous, Français, on doit être les champions de l'avion ultra sobre. Et que l'avion ultra sobre, à travers toutes les générations à venir, et ça va aller très vite, c'est 2027, 2030, 2035, 2050. On sait nos échéances. On a les moyens d'être les champions de l'avion ultra sobre et de le produire en France. En faisant quoi? Eh bien, en accélérant sur l'investissement dans la filière.
Un caméraman agressé sauvagement par un SDF est décédé. Après 2 mois de coma, on apprend que ce caméraman de télévision âgé de 57 ans est mort la semaine dernière sur son lit d'hôpital. Il avait été passé à tabac le 5 avril dernier dans le quartier de la Gare du Nord à Paris. Un suspect de 27 ans a été interpellé, né en Algérie. Il est connu pour des faits de stupéfiants et de vol. Allez, tout de suite, on passe à la chronique sport de Xavier Giraudon depuis Faro, au Portugal, quelques heures avant le coup d'envoi de Gibraltar-France. Nouveau match de qualification pour l'Euro 2024.
Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
C'est ici à Faro, au Portugal, que l'équipe de France va jouer ce soir son troisième match de qualification pour l'Euro 2024 face à Gibraltar. Ça vous dit rien? 201e nation mondiale de défaite, 3-0 lors des deux premiers matchs. Des joueurs qui jouent pour la plupart dans leur championnat. Un attaquant de 42 ans, policier, pour partie dans le civil. L'équipe de France doit faire le travail par le passé aux îles Féroé en 2009 ou encore face au Luxembourg à Toulouse. Ça avait été compliqué pour les Bleus, être à la hauteur pour faire le job en marquant vite, dans l'attitude, dans le comportement. Présenter aussi la meilleure équipe possible. Bonne nouvelle, retour de Théo Hernandez, de Dayo Upamecano, qui ne s'était pas trop entraîné cette semaine. Et puis en attaque, Ousmane Dembélé devrait accompagner Kylian Mbappé, qui a envie de marquer des points sur le terrain, de tourner la page de son avenir au Paris Saint-Germain, et d'Olivier Giroud. Les Bleus, avant France-Grèce lundi, prêts à faire le job ce soir ici au Portugal, à Faro.
Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. Place au débat de 90 minutes info. L'actualité continue sur CNews avec Nelly Denac.
Merci beaucoup, cher Mickaël. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, bien sûr. Reprise du débat, toujours en compagnie de Jonathan Sixou, Sabrina Medjeber et Alexis Isard. Aujourd'hui, autour de cette table, on va parler du SNU. 12 jours dans le cadre de l'année scolaire en classe de seconde et sur une base volontaire. C'est important de le préciser. Voilà donc à quoi va ressembler l'élargissement du SNU. Et d'ailleurs, dans le Figaro, on peut lire Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la jeunesse, qui détaille les nouveaux contours de ce dispositif. Alors, quels en sont les enjeux? On voit ça avec Sarah Fenzari et on en discute ensemble.
Une promesse chère à Emmanuel Macron. Le projet critiqué du service national universel franchira en 2024 une nouvelle étape. Après des mois d'attente et de discussion, la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, a annoncé son intégration dès mars prochain. Il s'agira d'un stage de 12 jours basé sur le volontariat pour les élèves de classe de seconde, y compris ceux qui ne sont pas de nationalité française et qui, selon elle, ne coûtera rien aux établissements ni aux parents. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a également précisé que les classes pourront choisir un thème tel que l'environnement, le sport, la défense ou la mémoire. Mais la secrétaire d'État insiste, aucune obligation.
Allez, allez, on se dépêche.
Cette nouvelle modalité coïncidera avec les séjours de cohésion choisis à titre individuel par les jeunes dans un autre département que le leur pendant leurs vacances scolaires. L'État prévoit même une aide financière pour les lycéens engagés. En 2022, 32 000 jeunes volontaires s'étaient lancés.
Alexis Isard, on est quand même loin de la généralisation initialement annoncée. Ça veut dire que ça va être quelque chose de relativement marginal. Quand on voit les chiffres, là, jusqu'à présent, il y a 32 000 volontaires. Bon, ça va peut-être un petit peu grossir, mais on est quand même loin d'envoyer toute une classe d'âge. À quoi c'est dû? Au sortir de la réforme des retraites, on ne pouvait pas se permettre de faire une telle annonce?
Moi, je crois que ce SNU, ce Service National Universel, est une chance pour la jeunesse. Et je prône cette généralisation. Maintenant, je vois l'arrivée dans nos lycées de la suite du galop d'essai et je trouve que c'est très bien. Je suis allé les voir sur ma circonscription le week-end dernier. Très sincèrement, je trouve ça super. On a plusieurs centaines de jeunes qui viennent de milieux sociaux différents, qui viennent de villes différentes et qui se retrouvent. Moi, quand je les ai vus, ils étaient tous habillés dans leur tenue de SNU. Je ne savais pas qui venait d'où, qui venait de quelle classe sociale. Simplement, ils se sont retrouvés dans des lodges magnifiquement rénovées par le maire de Dourdan, en l'occurrence Paulo de Carvalho. C'était très bien fait. Ils étaient tous très heureux d'être là et le programme était super pour leur permettre de découvrir des métiers, découvrir le fonctionnement de nos institutions et découvrir la citoyenneté. Donc c'est super. Moi, je prends une généralisation. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas le généraliser? Parce qu'on a une frange au Parlement qui ne le veut pas. Une extrême gauche qui estime que d'amener des jeunes dans un service national universel où pendant 12 jours, on va leur apprendre la citoyenneté, c'est une privation de liberté. Alors moi, je ne suis pas d'accord et je crois au contraire que plus cela va être instauré dans les lycées, plus ça va être sollicité et plus ça va généraliser. J'y crois très sincèrement.
Après, il n'y a pas que la frange gauche du Parlement. Il y a aussi les syndicats d'enseignants qui sont relativement contre, parce qu'on le rappelle, ça se passe quand même principalement dans le cadre de l'année scolaire. Et puis quand même, Sabrina Medjugorje, il faut le dire, ça coûterait très très cher. Il faudrait mettre plusieurs milliards sur la table si tant est qu'on ait les moyens de le généraliser à l'avenir. Hein. C'est une composante, on en reparle dans un instant, mais c'est une composante importante aussi, l'argent.
Alors, quand on voit que l'immigration illégale coûte à peu près 40 milliards d'euros par an, on peut se dire qu'on peut absoudre cette somme pour aider nos jeunes justement à se développer et adopter un système de valeurs différent qui est celui malheureusement de la déflagration culturelle à laquelle nous assistons d'année en année dans notre pays. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une belle expérimentation parce que évidemment, elle permet d'avoir des nouveaux acquis, d'être effectivement fédérés autour de valeurs comme l'appartenance à la collectivité, l'appartenance à la communauté nationale, le dépassement de soi, l'effort, le respect, l'éthique, la morale. Et effectivement, c'est aussi, je pense, l'idée que je me fais de l'école, en tout cas c'est celle que j'aimerais voir dans nos écoles, c'est-à-dire l'uniformisation des normes sociales. Peu importe le milieu d'où l'on vient, peu importe nos origines, le retour à l'uniforme, pour moi, est une très bonne chose parce qu'il permet justement d'estomper ces différences socioculturelles. Et une expérimentation comme ça, je pense qu'elle est salutaire dans ce sens.
Alors, juste pour revenir sur l'aspect budgétaire, il faudrait trouver dans les 3 milliards d'euros, ce serait possible?
C'est à peu près ça. Moi, je crois très sincèrement que le moindre euro qui sera investi dans la jeunesse ne sera jamais un euro de perdu. Et ma voisine l'a rappelé très bien rappelé, oui. C'est une nécessité.
C'est un investissement au long cours. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la cohésion sociale aussi. Au-delà de l'uniformisation. Mais le problème, parce qu'on le voit aussi dans le reportage et puis dans toutes les dépêches qui tombent sur ce que ça va revêtir, c'est que dès qu'on parle de lever de drapeau, lever des couleurs, etc., ça fait réagir toute une partie de la gauche qui est contre cette espèce de patriotisme affiché et trop ostentatoire de son point de vue.
Ça fait partie, oui, vous avez raison de le souligner, cette gauche qui se bouche le nez dès qu'on entend la Marseillaise où qu'on voit le drapeau tricolore et qui, dans le même temps, n'est absolument pas gêné pour appeler à aider les Ukrainiens qui se défendent, eux, pour leur couleur et pour leur hymne. Donc, si vous voulez, ce sont des incohérences de discours, voire des réelles incohérences idéologiques fondamentales. Et ce n'est pas la première fois que la gauche de la gauche s'illustre là-dedans. On ne peut que regretter, effectivement, que ce soit pour l'instant sur la base du volontariat. 3 milliards d'euros, ça peut se trouver, et relativement aisément, qui plus est. Et il y a urgence. Jacques Chirac, en son temps, parlait de fracture sociale. Emmanuel Macron parle de décivilisation. C'est en passant par là, effectivement, que, et j'en suis convaincu, en fédérant la jeunesse sur des valeurs communes, puisque ça part en éclat à tous les échelons de la société, qu'on arrivera à créer de nouveau, j'espère un peu, un avenir digne pour ce pays et pour ses futurs grands Français.
Eh bien, l'avenir le proche nous dira si on trouve les moyens d'inciter, de motiver cette jeunesse à le faire. On aura assez vite, je pense, un retour d'expérience. Vous parlez d'urgence. Il y en a qui pointent l'urgence climatique. Vous le savez, il y a ce mouvement Soulèvement de la Terre que l'on connaît bien maintenant, qui s'est illustré à plusieurs reprises. Le tribunal administratif de Grenoble se penche aujourd'hui sur les recours qui ont d'ailleurs été formés par tous ses opposants au chantier de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Et les manifestations prévues ce week-end en vallée de Maurienne, vous le savez, ont été interdites par la préfecture. Ça n'a pas empêché le mouvement en question, et puis d'autres, d'appeler à se mobiliser. 3000 personnes, dont plus de 400 radicaux, qui seraient, selon la préfecture, susceptibles de causer des troubles à l'ordre public. Voyons quelles pourraient être les actions entreprises avec Mickaël Dos Santos et on retrouvera un de nos reporters sur place.
Des manifestants qui s'infiltrent sur le chantier du tunnel Lyon-Turin, un face-à-face avec les forces de l'ordre. Ces scènes survenues il y a 12 ans en Italie pourraient se répéter ce samedi de l'autre côté des Alpes. 4000 manifestants sont attendus contre ce projet qu'ils jugent anti-écologique. La préfecture de Savoie n'écarte pas des affrontements.
Crainte s'agissant des personnes, l'agression par exemple des forces de l'ordre, l'agression des équipes de sapeurs-pompiers, on a déjà vu de telles scènes, et je n'exclus pas évidemment que d'autres cibles pourraient être choisies par des mouvements au comportement agressif, sinon violent.
400 éléments radicaux sont attendus. 107 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises en amont contre des activistes étrangers. Un important dispositif de sécurité va être également déployé.
Environ 2000 gendarmes et policiers seront engagés sur ce week-end pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection des communes et des sites de chantier de Telt.
Des forces de l'ordre essentielles également pour la protection des équipes de secours. Leur présence permettra de sécuriser les interventions pour venir en aide aux éventuels blessés.
Mathieu Devez, bonjour. Alors, ces militants, hein, ces activistes de Soulèvement de la Terre, ils se sont donné rendez-vous. Ils ont bien l'intention d'occuper le terrain. Vous êtes d'ailleurs sur le campement. Il est toujours en cours de construction. Les premiers manifestants sont-ils arrivés? Et si c'est le cas, combien sont-ils?
Effectivement, chère Nelly, bonjour. Ils sont déjà plusieurs centaines de manifestants à avoir investi ces terrains communaux. Nous sommes à La Chapelle, une commune de la vallée de la Maurienne. Et selon une organisatrice de la manifestation avec laquelle nous avons discuté, le maire de la commune a bel et bien donné son accord pour que les manifestants que vous voyez derrière moi investissent ces terrains communaux. Regardez ces images proposées par Jules Baudot. Faut-il s'attendre à un nouveau Sainte-Soline? C'est la question que se posent les autorités alors qu'une manifestation internationale est prévue ce week-end. Vous le voyez, un camp de base est donc en train d'être installé avec des chapiteaux, des points d'information, un dispositif médical et même une cantine. Selon le préfet, il pourrait être 4000 manifestants au plus fort de la mobilisation, dont 400 à 500 éléments radicaux. Les élus, de leur côté, ne cachent pas leur inquiétude. Il s'agit d'un appel à une mobilisation internationale relayée très largement sur les réseaux sociaux. Le rassemblement pourrait en effet attirer des manifestants venus d'Italie et de Suisse. Les autorités redoutent des actes de sabotage sur différents sites du chantier et l'installation d'une ZAD sur place avec des manifestants qui cherchent tout simplement à s'installer durablement et illégalement. La préfecture a interdit le rassemblement dans 9 communes de Maurienne pour risque de débordement. Mais pas celle-ci, et 2000 gendarmes et policiers sont déployés jusqu'à dimanche. Les organisateurs, de leur côté, s'exposent à une peine de 6 mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende et 750 € pour les participants.
Merci beaucoup et merci donc à Jules Bedeau qui vous accompagne. Évidemment, les autorités surveillent tout cela comme le lait sur le feu. Et justement, il parlait de la volonté de s'installer durablement. C'est exactement ce que disait Sandrine Rousseau ce matin chez nos confrères en disant eh ben, une ZAD qui s'installe, pourquoi pas après tout. Écoutez.
On se met à avoir peur des ZAD alors que les ZAD sont quand même des zones globalement juste qui occupent des terrains pour le bien commun. Enfin, je veux dire, il n'y a personne dans les ZAD qui défend un intérêt personnel hein, dans cette affaire. On ne défend que la planète, en fait. Hein. Donc, je veux dire, il n'y a pas de risque majeur et quand bien même il y a une ZAD qui s'installe, eh bien, il y a une ZAD qui s'installe.
C'est voilà. Pas grave pour vous, une ZAD?
Non, c'est pas grave, non.
Jonathan Sixou, que vous inspire ce dernier commentaire, Sandrine Rousseau?
Je vais mieux me tenir à l'antenne, rassurez-vous Nelly.
Sandrine Rousseau, pas une ZAD, une autre.
Sandrine Rousseau fait précisément partie de ces élus qui, à l'Assemblée nationale, se réclament de la ZAD, du système de ZAD, et de vouloir importer dans l'hémicycle la ZAD et durablement. Donc, pour le coup, elle est parfaitement cohérente avec ses petits camarades. Je ne pense pas que vous pourriez dire le contraire.
À certains égards, ça vous paraît être une ZAD, la gauche
et
de l'hémicycle.
Sandrine Rousseau.
C'est un comportement particulier.
Et Sandrine Rousseau, non, c'est les propres mots de la LFI. Je crois que c'est Mathilde Panot qui avait dit qu'elle voulait transformer l'Assemblée en ZAD. C'est-à-dire, si le propos a le mérite de la clarté. Sandrine Rousseau, et c'est bien plus grave aussi, fait partie de ces élus qui usent de leur écharpe tricolore pour soutenir des mouvements illégaux, c'est-à-dire des mouvements hors la loi, des mouvements interdits par la loi, et elle utilise son écharpe de législateur pour aller les soutenir, ce qui est parfaitement intolérable et qui devrait être intolérable pour tous les citoyens qui veulent défendre la République et la démocratie, parce que ce type d'élus, ce type de mouvement attaque et sape notre République depuis le début de cette législature. C'est tout simplement intolérable.
Alexis, on peut quand même s'interroger sur le fait que la dissolution qui avait été annoncée par Gérald Darmanin n'a toujours pas été actée. Beaucoup disaient ces derniers jours, maintenant c'est entre les mains d'Elisabeth Borne. Mais qu'attend-on?
Non, mais dans ce projet, d'abord, si vous me permettez de revenir dessus, on marche totalement sur la tête. Je rappelle quand même que ce projet ferroviaire, il a un objectif de réduire les gaz à effet de serre émis sur les transports sur la route. Donc c'est un projet qui, à terme, est écolo. Et en plus de ça, l'Assemblée, il demande plus de fret ferroviaire. Il nous accuse de sous-investir dans le fret.
Donc les arguments avancés sont fallacieux.
Au moment où on arrive pour investir massivement dedans, ils viennent bloquer. C'est un total non-sens. Et en plus de ça, moi je suis très gêné de voir des élus qui appellent comme ça à aller manifester contre des arrêts préfectoraux. On a quand même des élus nationaux qui ont été élus pour faire la loi et qui passent leur temps à appeler à ne pas la respecter. Oui. Et ça, je trouve ça totalement scandaleux. Ils sont totalement hors de leur fonction. Il faut être absolument ferme contre eux. Et évidemment, il faut dissoudre, c'est sûr.
Alors bah, justement, si vous, là, parce que là, ils sont en train d'agir impunément. On a vu aussi que cette association a fait parler d'elle il y a quelques jours avec la tentative de mobilisation, vous savez, autour de serres agricoles. D'ailleurs, ça a fait un peu pchit parce que ça n'a pas été bien perçu. On a relancé toute cette notion d'écoterrorisme, de délinquance. Alors qu'attend-on ? Pourquoi ça met autant de temps ? Pourquoi être aussi frileux pour le faire du point de vue de l'exécutif ?
Moi, je vais être très honnête avec vous.
Si la préfecture est prompte à dégainer, elle.
Moi, je vais être très honnête avec vous. Je ne sais pas où en est le dossier actuellement. Ouais. Mais moi, j'appelle de mes voeux la dissolution d'un groupe qui ne représente personne, si ce n'est eux-mêmes, et qui appelle à aller contre la loi. Qui arrive avec, sur une mobilisation, je crois, en regardant les chiffres, 3 à 5 000 personnes, 500 personnes qui sont là pour attaquer avec des mortiers, avec des armes. Donc non.
Apparemment, il y avait débat sur les réseaux sociaux et sur les boucles internes à cette association, Sabrina Medjugorje, parce que justement, ils ne veulent pas reproduire non plus un Sainte-Soline bis, sachant que ça a été quand même un fiasco total. Ils ont eu mauvaise presse aussi derrière, il y a eu des blessés. Donc on sent qu'ils cherchent un petit peu à la fois, effectivement, la confrontation, mais tout en restant quand même dans un cadre où on peut continuer à solliciter leur action. C'est ça l'adage difficile à trouver pour Soulèvement de la Terre aujourd'hui.
Alors, la difficulté, c'est qu'effectivement, ces individus sont en totale dissidence avec les exigences de la loi. Et pire que ça, ils sont encouragés, sponsorisés par des élus, donc, qui sont dépositaires de l'autorité. Entre autres, Madame Rousseau, ça n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. Hein. C'est elle qui est récurremment... appel à la désobéissance civile, hein. Ce sont ses propres mots, ses propres vœux. Donc effectivement, on assiste à cette espèce de grouillement culturel que Michel Maffezoli appelle l'ère des tribus, qui agit en total déphasage avec l'autorité. Et le problème, c'est que il y a, on l'avait rappelé la fois dernière, une éco-anxiété qui est tout à fait légitime, mais on a également aussi un risque d'éco-terrorisme parce qu'on n'est pas capable de mesurer les débordements que cela va engendrer. Alors, voir si on va avoir affaire à un Sainte-Soline bis, ça dépendra évidemment de l'extériorité de la manifestation, parce que ces gens-là disent qu'ils manifestent en toute légitimité contre un projet qu'ils estiment être anti-écologique. Mais moi, ce que je vois, c'est que ces gens-là sont toujours dans l'avant-vendetta, dans l'expédition punitive. On l'a vu avec ce qui s'est passé concernant les serres expérimentales des maraîchers à Nantes. Ils n'ont pas hésité à araser le terrain, alors que c'est quelqu'un qui envie précisément.
Qui en plus veut pratiquer une agriculture vertueuse.
Exactement. Ouais. Donc le problème en réalité qui se pose quand on est face à ces problèmes, c'est à la fois le manque de moyens, le problème du maintien de l'ordre, et à la fois le manque d'effectifs qui pourraient pallier à ce maintien de l'ordre, parce que malheureusement, tout ça est très aléatoire. Même s'ils prétendent manifester en tout pacifisme, il se peut que d'autres mouvements plus fascisants, comme les Black Blocs et comme on a vu à Sainte-Soline, alimenter le mouvement et viennent créer des tensions sociales et voire même des accidents assez graves comme on l'a vu à Sainte-Soline.
Le Lyon-Turin, ça date pas d'hier, déjà 20% réalisé, c'est un vaste projet qu'on connaît tous, hein. Il faudra aller au bout de toute façon, quels que soient les agitateurs qui se préoccupent de la cause, soi-disant.
Je suis convaincu que ces agitateurs, comme vous dites, ne se préoccupent pas franchement de la cause. Pour rejoindre ce que disait Sabrina, l'écologie, dans bien des cas, pas tout le temps, mais dans bien des cas, est devenue aujourd'hui le prétexte, le cache-nez d'une nouvelle tendance, de nouveaux mouvements totalitaires, totalisants, fascisants, n'ayons pas peur des mots. Et l'éco-terrorisme, oui, ça existe, et ces gens-là s'en donnent à cœur joie. Oui, le Lyon-Turin doit voir le jour. Ça va permettre effectivement de sauver la planète, qu'il n'en déplaise à ces jeunes gens.
On rappelle, hein, le principe, c'est le délestage des marchandises pour pouvoir aussi désencombrer les autres axes routiers.
Exactement, parce que rappelons-le, pour le moment et depuis des années, le premier affréteur de camions pour le fret sur nos autoroutes en France s'appelle la SNCF, ce qui est un peu aberrant. Ouais. Donc effectivement, tout projet qui permettra de remettre le train sur les rails, sans mauvais jeu de mots, sera le bienvenu et méritera, je le crois sincèrement, d'être soutenu par tout le monde. Et j'aimerais un État un peu plus fort pour pouvoir permettre à ces gens de ne pas exercer leur néfaste pression sur les chantiers, sur les agriculteurs et tous ceux qui soutiennent ce type de projet.
D'autant qu'on peut rappeler que ce projet est appelé des vœux de tous les élus locaux.
Oui, bien sûr.
Le voir venir, à part cette association-là.
Il fait consensus depuis un certain temps.
Il est décisionnaire.
Allez, on va s'interrompre à nouveau. On va évidemment rentrer en phase d'observation pour voir ce qui se joue réellement sur le terrain ce week-end. Dans un instant, nous parlerons de ces atteintes à la laïcité qui ont été relevées dans plusieurs établissements scolaires de Nice. Et la subtilité, enfin, ce qui est très, très intriguant, c'est que c'est l'inspection académique elle-même qui relève ces faits. À tout à l'heure. De retour pour la toute dernière partie de notre débat. On retrouve nos invités juste après la Minute Info. Soumaïa Labidi à nouveau.
Mort de Karine Esquivillon, son mari mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a décidé de s'expliquer. Il a donné sa version consistant à expliquer que c'est un accident, précise son avocat. Les aveux de Michel Pial ont permis de retrouver la dépouille de sa défunte épouse cette nuit dans un bois. Une proposition de loi devant l'Assemblée pour lancer les RER métropolitains. Les députés examinent un texte pour mettre sur les rails la promesse de l'exécutif de lancer des RER dans au moins 10 grandes villes. Les villes retenues ne sont pas précisées, mais des projets sont en cours à Lille, Bordeaux ou encore à Grenoble. Suite au naufrage de migrants en Grèce cette semaine, l'ONU plaide pour des mesures urgentes et décisives. Et pour y arriver, l'organisation a demandé des investigations en ce sens. Il est clair que l'approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d'être la route migratoire la plus dangereuse au monde, avec le taux de mortalité le plus élevé, a déclaré un responsable onusien.
À l'heure où de plus en plus d'atteintes à la laïcité sont signalées, on en parle quasiment toutes les semaines sur ce plateau, de nombreux établissements concernés dans le sud notamment, et il y a ce courrier qui interpelle particulièrement. Il s'adresse au maire de Nice, Christian Estrosi, mais surtout, il émane de l'inspection académique. Selon l'inspecteur académique, dans plusieurs écoles et établissements du second degré et même du premier degré, il y a eu des prières musulmanes dans la cour de l'école, ainsi qu'une minute de silence qui aurait été observée dans au moins un de ces établissements à la mémoire du prophète Mahomet. Incroyable constat, bien évidemment, que nous résume Barbara Durand.
Alerté par l'inspecteur académique, le maire de Nice monte au créneau. Face à la suspicion de prières musulmanes effectuées par des enfants de CM1 et CM2 dans la cour de récré, Christian Estrosi demande au préfet une réunion d'urgence et au gouvernement une campagne de sensibilisation à la radicalisation. Pour la municipalité, il y a urgence.
Nous assistons à une recrudescence de faits de cette nature. Et dans le même temps, nous savons que depuis quelques semaines, nous avons des enfants revenus de Syrie qui sont scolarisés dans les écoles. Et en tant qu'élu local, nous ne savons pas où, nous ne savons pas à quel endroit. Nous nous demandons que les élus locaux, avec Christian Estrosi, puissent avoir l'information, qu'elles puissent partager un secret avec l'État pour pouvoir être plus vigilants sur un certain nombre de situations.
Hormis les prières, des temps religieux en mémoire du prophète Mahomet auraient également été organisés. Selon un communiqué conjoint du maire de Nice et du ministre de l'Éducation nationale, les parents des élèves en question ont été convoqués par le directeur des écoles concernées et les équipes académiques Valeurs de la République immédiatement mobilisées. Le gouvernement l'assure, ces actes n'ont pas leur place à l'école.
L'école de la République est un sanctuaire pour tous nos enfants. Il est de notre devoir de la protéger de tout entrisme religieux.
Une enquête de l'inspection générale est en cours. Entre le mois d'avril et le mois de mai, plus de 1000 cas d'atteinte à la laïcité dans des établissements scolaires ont été signalés au ministère de l'Éducation nationale.
Sabrina Medjeber, est-il temps de s'en alarmer, surtout lorsqu'on sait, il faudra voir si ce sont les mêmes élèves, mais le sujet montre que cette région accueille des enfants revenus de Syrie.
Il y a le problème des enfants d'État en guerre, ça c'est une évidence. Et du coup, le problème de l'assimilation à notre référentiel culturel qui visiblement ne fonctionne pas. Et malheureusement, ça n'est pas que dans cette région, c'est partout en France. Moi, je voudrais simplement souligner qu'on touche le fond, clairement. On touche le fond. C'est d'année en année, on assiste à une lâcheté politique, idéologique, une forme de cécité, d'aveuglement, de naïveté par rapport à ces phénomènes que l'on rencontre dans nos écoles. Le communiqué le précise bien, l'école est un sanctuaire qui protège les enfants de toute influence idéologique, quelle qu'elle soit, sexuelle avec les LGBT ou religieuse avec l'islam politique. L'école, c'est l'école. La laïcité, c'est la laïcité. La loi, c'est la loi. Maintenant que je vois que ces gamins de CM1, CM2, on parle de gamins de CM1, CM2, qui font des prières à l'école, et qui rendent une minute, qui font une minute de silence au prophète. Je veux dire, si le pouvoir politique n'est pas capable d'endiguer ce phénomène, parce que les frères musulmans qui manipulent ces enfants, eux savent très bien quelles sont nos failles.
Ça fait partie du combat politique.
Absolument, ils savent très bien comment parasiter le système qu'ils colonisent, parce que pour eux, l'école est un ventre mou où tout est possible. Ça a commencé en 89 avec l'affaire de Creil. Ensuite, il y a eu la djellaba. Récemment, l'abaya qui visiblement, selon le CFCM, n'est pas un vêtement religieux, mais enfin, il faut quand même rappeler ce que c'est que l'abaya. C'est un vêtement qui vient des pétromonarchies, qui est précisément conforme à l'orthodoxie islamique qui impose la pudeur aux femmes. L'abaya, ça n'est ni plus ni moins que ça. On nous dit, ah oui, mais c'est pas un vêtement religieux, mais c'est un vêtement culturel. Donc vous voyez, on est toujours dans une espèce de manipulation sémantique qui justement font la ruse de ces gens qui influencent ces gamins pour imposer une idéologie qui n'a pas lieu d'être. L'école, c'est l'école. L'État doit être ferme. Alors, quant à Pape Ndiaye, moi, j'aimerais bien savoir quelle sera sa réaction, parce que pour moi, depuis le début de son mandat, je n'ai pas l'impression qu'il considère l'école comme une matrice sécurisante. J'ai plutôt l'impression qu'il la considère comme une forme d'expérimentation idéologique, où on peut à peu près tout tester, qui fait, je pense, le jeu de son rêve, c'est-à-dire l'installation du multiculturalisme qui n'est pas notre modèle de société. Ouais. Nous sommes universalistes. Mon prochain, c'est mon semblable. Ça n'est pas le substrat d'une communauté. Et son idéologie woke, qui, encore une fois, n'a pas sa place à l'école. Laissez les enfants tranquilles.
Alexis Izard, je m'adresse au législateur. Il va pas falloir, on va pas à chaque fois légiférer. Il y a une loi très claire existante. Mais comment ? Mais il faut la faire appliquer à un moment.
Ce qui est sûr, c'est, bon, je reprendrai pas les termes de colonisation, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe ici est extrêmement grave.
Il n'y a pas une volonté de pénétrer quand même l'école ?
On parle de gamins qui se font manipuler à l'école. Moi, je veux rappeler, l'école, elle est laïque, point. C'est un temple laïque où rien que l'instruction, rien que l'éducation doit s'y faire. Et quand on a des enfants qui sont manipulés comme ça et qui se retrouvent en CM1, CM2 à aller faire des prières dans la cour, ça pousse les proviseurs, ça pousse les enseignants à s'occuper de sujets dont ils ne devraient pas être responsables. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on est dans un pays laïque qui permet le culte de toutes les religions hors des temples républicains et l'école en est un.
D'accord, mais quand ça arrive, parce que ça va se reproduire à nouveau, qu'est-ce qu'on fait ? On les sanctionne, on les rappelle à l'ordre, on sanctionne les parents ?
Il faut responsabiliser les parents, ces jeunes de CM1, CM2, c'est pas eux qu'on va mettre en prison, c'est d'ailleurs pas leurs parents non plus, mais il faut les convoquer, leurs parents, il faut les mettre face à leurs responsabilités.
Ouais. Comment on fait pour freiner cette course folle ? Chaque semaine, il y a de nouveaux exemples. On nous fait croire que non, mais on le voit bien quand même, Juliette en Sixou.
Mais il faut arrêter de se voiler la face. On ne va pas les responsabiliser, ces parents, puisque c'est du fait d'avoir ces parents-là que ces enfants font ceci dans la cour de l'école.
Pas forcément leurs parents. Peut être l'entourage du quartier aussi.
Je pense que c'est de toute façon révélateur de quoi ? Du bain dans lequel grandissent ces enfants. À 9 ans ou 10 ans, on n'invente pas soi-même de faire une minute de silence pour le prophète Mahomet. Je veux dire, ce n'est pas.
Et puis on ne va pas soi-même.
Et on ne va pas soi-même transformer la cour de récré en salle de prière. Ce sont des situations totalement aberrantes et intolérables. Il y a quand même, ce n'est pas un détail, le communiqué que vous nous montrez émane aussi parmi les signataires avec la ville de l'Académie. Quand on connaît la frilosité, pour ne pas dire la lâcheté, voire même parfois ça.
On l'a vu dans les cas de harcèlement scolaire.
Oui, enfin, moi je pense aussi à Samuel Paty, à tous les signalements de profs qui sont confrontés à des pressions islamisantes.
Ça mérite d'être souligné, oui.
Et qui témoignent, la France est quand même le seul pays d'Occident à avoir des professeurs qui vivent sous protection policière. Ouais. Il faut le rappeler dès qu'on peut le faire tout de même. C'est anormal, c'est intolérable. Et tous ces professeurs témoignent de quoi ? Du silence absolu que leur oppose leur hiérarchie, leurs collègues dans la salle des profs, mais aussi et surtout les académies. Donc là, pour que l'Académie de Nice tire la sonnette d'alarme avec la ville, c'est que la situation est franchement grave. Donc il faut s'en alarmer, il faut en parler effectivement, et il faut arriver à nommer les choses et à pouvoir atteindre au nœud du problème, au cœur du problème, pour pouvoir l'enrayer. Parce qu'on assiste à un emballement dingue. Le retour, on voit bien que ce fameux retour des enfants de Syrie n'est pas bien géré, vraisemblablement, puisque il y a de telles failles. Je ne dis pas que dans cette école-là, en l'occurrence, ça se passe mal, mais ça met à jour quoi ? Ça met quand même à jour des failles sérieuses dans ce système d'intégration dans notre pays et nos mœurs. C'est assez inquiétant, pour ne pas dire très inquiétant.
Revenons à la personne de Pape Ndiaye, que Sabrina Medjeber quand même a bien rhabillé pour l'hiver à l'instant. Est-ce qu'il est à la hauteur de la tâche aujourd'hui, ce ministre ?
Moi, j'attends la réponse du ministre, j'attends une réponse ferme. L'école, elle est laïque depuis la fin du 19e siècle, elle doit le rester.
Qu'est-ce qu'il peut faire en termes de fermeté alors? Prendre des sanctions pour l'exemple, vraiment là?
Mais simplement, outre des sanctions.
Parce qu'il n'y a pas juste l'affichage de dire nous serons intraitables. Ça, on l'entend tout le temps, à peu près à chaque événement. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait?
Il faut soutenir les inspecteurs académiques, il faut soutenir les personnels enseignants en leur donnant la possibilité d'agir dans ces situations-là. On prend l'exemple de cette école-là, mais des atteintes à la laïcité, malheureusement, on en a dans beaucoup d'écoles. Il faut isoler ces personnes-là, ne pas les condamner à l'échec. On parle souvent d'enfants qui peuvent agir dans un élan de provocation.
Oui, à 8-9 ans, on récupère les enfants.
Il faut les rediriger. Mais quand ce n'est pas possible, il faut permettre de les sortir de l'école pour laisser les autres s'épanouir et se développer dans leur classe.
Bon, on va passer à un autre thème. Il nous reste quelques minutes pour vous signaler cette initiative qui émane du maire de Bègles. Ça se trouve en Gironde, je ne vous l'apprends pas. Bègles qui souhaite être ville test autour de la légalisation du cannabis. C'est un vaste débat. On l'aborde souvent avec vous d'ailleurs, Jeannette Antixou. Cette proposition a même été envoyée à Emmanuel Macron. Il estime, ce maire, que toute répression, que le tout répressif n'est pas efficace, que pour limiter les points de deal, la légalisation est peut-être une voie à explorer aujourd'hui. Jérôme Rampenou.
La ville de Bègles, près de Bordeaux, connaît elle aussi son lot de trafic de cannabis. Pour essayer d'endiguer les points de deal, le maire aimerait que sa vente soit légalisée.
Légalisation encadrée, ça ne veut pas dire open bar. On ne pourra pas acheter à tous les coins de rue, on ne pourra pas consommer dans l'espace public, les mineurs ne pourront pas consommer évidemment. L'idée c'est réduire les trafics, réduire la consommation des mineurs, encadrer la consommation des majeurs, les accompagner. Voilà, parce que c'est une drogue, donc je ne fais pas l'apologie du cannabis, absolument pas.
Pour les spécialistes de l'addiction, le problème n'est pas la légalisation, mais plutôt d'aider la population à réduire sa consommation.
On est dans un vide sidéral où on a une répression à tous les étages. On a 1 million de consommateurs réguliers. Aujourd'hui, on a des gens qui sont incarcérés uniquement pour leur consommation. Et derrière, on ne travaille pas une politique de prévention et de réduction des risques efficace.
Dans les rues, les habitants sont partagés.
Bon, apparemment, dans certaines villes, ça a bien marché à l'étranger. Parce qu'en Hollande, apparemment, pour le cannabis, il y en a moins. Mais je pense qu'il y a vraiment d'autres problèmes à ça régler sur la commune que ça.
On pourra contrôler le taux de THC en fait, présent dans le produit, tout simplement. Et c'est quand même ce qui cause un grand problème auprès des consommateurs, puisque le taux est de plus en plus élevé quand même dans les ventes actuellement.
Bègles aimerait servir de ville test. Une demande a été envoyée à Emmanuel Macron en ce sens. Ici, on aimerait que la France rejoigne d'autres pays européens, comme Malte, qui fut le premier à légaliser le cannabis en 2021.
Sabine Medjeber, est-ce que vous dites faites partie de ceux qui disent pourquoi pas si ça peut permettre d'avoir un retour d'expérience?
Écoutez, tester, expérimenter, c'est toujours une bonne chose de toute façon, mais le cannabis est un tel problème protéiforme, multifactoriel, enfin, c'est un tel trafic, ça nourrit des économies parallèles qui nourrissent des quartiers entiers, qui nourrissent des familles entières, donc légaliser le cannabis, est-ce que c'est une bonne chose? Certainement, parce que ça permettrait d'encadrer son financement. Mais je ne crois pas que ça empêche les personnes consommatrices de cannabis d'en fumer moins ou d'en fumer plus. Quelqu'un qui fume du cannabis, comme n'importe quel psychotrope, il est dans l'accoutumance. Donc c'est bien que ce soit encadré. Effectivement, ce n'est pas open bar, comme le rappelle le maire, mais je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus épineux que ça, malgré les positions conservatrices à l'échelle européenne. Je veux dire, en Allemagne, par exemple, c'est pas très de la même manière qu'au Portugal ou qu'à Malte ou qu'aux Pays-Bas. C'est bien d'expérimenter, mais je crois que c'est une bonne chose de légaliser. Mais je pense que ça n'empêchera malheureusement pas le trafic superfétatoire du cannabis à travers le territoire, vraiment.
Alexis Izard, de quel côté vous vous situez? Il faut bien tenter des solutions ou bien il faut peut-être s'attaquer à un moment donné à la consommation avec une vraie politique sanitaire, quoi, une campagne de sensibilisation pour en montrer les méfaits?
Déjà, je crois que la légalisation du cannabis ne résoudra pas notre problème précédent qui est celui de l'éducation. Le cannabis, c'est un fléau. Qui gâche la vie de beaucoup de jeunes qui tombent dedans, ça il faut le rappeler. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on aura toujours ce problème de cannabis parce que personnellement je ne suis pas consommateur, je ne l'ai jamais été, mais je sais très bien que légal ou pas, en sortant de ce plateau, je peux en trouver assez facilement. Et ça c'est problématique et c'est pour ça que je crois qu'il est intéressant en tout cas de regarder ce qu'on peut faire, peut-être de tester et de voir, on peut tenter.
On a besoin d'avoir des laboratoires, Jeannette Antixou, où au fond, tout cela est vain. D'ailleurs, je rappelle quand même que c'est totalement en phase avec la une de Causeur. Je vous dis le titre de la une, c'est le bad trip français, sous-titre avec cette question: serons-nous le prochain narco-État? Est-ce que vous en parlez de cette
Bien sûr.
voie à explorer ?
On en parle à travers des exemples américains où des États américains ont, depuis plusieurs années, légalisé la consommation de cannabis.
On pense au Colorado, notamment.
Et le résultat est dramatique. Le résultat est dramatique, pourquoi ? Parce que, déjà, vous créez, l'expression n'est pas très heureuse, mais des zones de défonce. Donc vous faites venir, vous attirez tous les junkies qui ne peuvent pas se défoncer chez eux. L'argument est totalement fallacieux de dire que ça on va encadrer pour tenter de faire moins consommer les gens dans tous les endroits, dans toutes les zones, et en l'occurrence les États américains qui ont pratiqué la légalisation du cannabis, l'augmentation de la consommation a explosé. Les gens fument et fument de plus en plus. Et puis la conséquence, c'est quoi ? C'est que, évidemment, parce qu'on dit aussi c'est une façon pour enrayer les trafics, etc.
Oui, vous ça avez... c'est un peu l'argument.
C'est un argument qui est très suffisant sur le papier. Voilà. Mais là dans les faits, c'est quoi ? C'est que l'État devient un concurrent direct du crime organisé qui lui continue ses filières. Et là, c'est un combat impossible et en plus inégal, parce que le crime organisé, évidemment, n'a pas la loi de son côté. Et donc à tous les coups tordus pour lui. Et donc il gagne. Vous voulez, les expériences ne sont pas bonnes. Ensuite, en ce qui concerne le cas français, oui, et puis un autre détail qui n'en est pas franchement un, c'est qu'une fois que vous avez franchi un certain cap dans la consommation de cannabis, vous passez à autre chose plus dur. Ce qui m'étonne de la part de plusieurs, même de représentants d'élus français en la matière, quand on sait, et on en parle souvent, même si le sujet est délicat, voire parfois tabou encore, de la fragilité psychique, psychologique des Français post-Covid, quand on sait qu'il y a vraiment des gens qui ont des faiblesses reconnues depuis 3 ans maintenant, et que l'on connaît en plus parfaitement scientifiquement les ravages du cannabis sur la cervelle humaine, je pense notamment à la schizophrénie et autres, qui sont des pathologies lourdes.
Ça va me faire qu'encourager ces
pratiques. Évidemment, regardez le nombre de faits divers, parfois ce ne sont malheureusement pas des faits divers, mais des faits de la vie courante, de ces violences verbales ou physiques, où l'on voit bien qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de maîtrise de soi. Dans bien des cas, la cause est à mettre sur la consommation de cannabis, malheureusement.
Ce même crime organisé auquel il fait référence, de toute façon, il s'adaptera et se tournera vers d'autres durs. C'est-à-dire que ceux qui ne dealeront plus du cannabis parce qu'ils ne pourront pas ou parce qu'on leur aura pris une partie de leur marché, se tourneront vers des drogues dites dures.
Oui, déjà, les consommateurs sont de plus en plus, on l'observe en sociologie, de plus en plus impliqués dans la polytoxicomanie, hein. C'est plus simplement du shit. Il y a la cocaïne, l'héroïne, les drogues de synthèse et bien d'autres. Et ce qui va évidemment nourrir un multi-business, puisque conséquemment, face à la consommation qui sera exponentielle, évidemment que ça va enrichir les poches, entre guillemets, des dealers, ou en tout cas des maillons de la chaîne des trafiquants de stupéfiants en tout genre. Donc oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse à ça, comme le soulignait Jonathan. C'est pas parce qu'on interdit, finalement l'interdiction, ça entraîne la subversion, la transgression, et donc malheureusement une très très grande augmentation de la consommation de drogue. Donc ça n'est pas en légalisant qu'on va endiguer le problème. Le problème, c'est comment ces drogues arrivent sur le territoire français. C'est là où doit se situer le problème. Moi, je me souviens d'une interview de Thibault de Montbrial qui nous expliquait que il y a une infiltration des cartels sud-américains par tout l'ouest de l'Europe qui, justement, sclérose le port du Havre, Hambourg, etc., où là, on a réellement affaire à des guerres ethnico-territoriales parce que c'est le maillage se formalise de cette manière. Et quand vous parliez de vous intitulez votre une en parlant de narco-État, je pense que en France, si on n'arrive pas à endiguer ce problème, si on n'arrive pas réellement à enrayer l'arrivée des stupéfiants sur notre territoire, on est dans une problématique qui n'est plus française, mais qui est européenne. Et là, je pense qu'il va falloir réfléchir à comment coaliser nos forces avec tous les ministères, là au cas particulier, en Europe, pour justement endiguer ce problème. Donc c'est un problème qui est multifactoriel.
Faire rempart à l'extérieur de nos frontières, mission impossible selon vous ?
En l'état, je pense pas.
Moi, sincèrement, je ne crois pas en toutes ces excuses qu'on se donne sur la légalisation du cannabis, parce que depuis que je les suis et depuis que je m'y intéresse, j'entends deux chapelles. Une qui vont nous dire que finalement, on ne légalise pas parce qu'on achète la paix sociale dans les quartiers, on leur permet d'avoir du travail, certainement. Et les autres nous disent que, de toute manière, si on légalise, le business continuera. Donc, c'est deux visions contraires de la chose.
C'est vrai.
Moi, ce que je crois, c'est que, sans plaider pour la légalisation, je crois sincèrement que si celle-ci devait être mise sur la table, elle doit se faire dans le cadre d'un grand plan pour sensibiliser et pour un grand plan de santé publique pour protéger les jeunes du cannabis, parce qu'aujourd'hui les jeunes ils sont pas protégés du cannabis, ils tombent très facilement dedans, et moi je l'ai vu sincèrement, pour certains jeunes c'est catastrophique.
Mais on n'en voit pas des campagnes de la sorte, enfin juste en quelques secondes, il nous reste très peu de temps. On voit les campagnes sur la sécurité routière, on voit des campagnes, on en a beaucoup vu quand même sur la contraception, etc. Mais pas du tout sur la consommation de cannabis.
C'est très bien de pointer ça, Nelly, parce que ça fait partie d'une aberration politico-administrative. Comme c'est illégal, on ne va pas faire de communication gouvernementale sur une chose qui est illégale, alors que ça devrait être une priorité. On en avait un peu reparlé au moment de l'affaire Palmade il y a quelques semaines, quelques mois, et on voit bien que
c'est retombé dans l'oubli.
Mais il faudrait absolument que l'État, le gouvernement, reconnaisse qu'il faut faire des campagnes sur des produits qui sont interdits.
Merci beaucoup. On s'interrompt quelques secondes et on revient pour se dire au revoir. À tout à l'heure.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.